Salut à tous et bienvenue dans Wedding Podcast, je suis Sébastien Cabanès, photographe et vidéaste de mariage, et j'explore pour vous différentes thématiques autour du monde du mariage. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Wedding Podcast. Aujourd'hui, on va traverser l'Atlantique pour parler un peu du milieu du mariage au Canada avec Laurent Rostin. Salut Laurent.
Salut Sébastien.
Alors Laurent est vidéaste français. Il s'est expatrié à Montréal, dans la province du Québec. Et il va nous parler un peu de son expérience de vidéaste, mais surtout de son expérience d'expatrié, du milieu du mariage, plutôt du côté nord-américain. Alors Laurent, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de ton parcours, tout ça?
Oui, alors je m'appelle Laurent Rostin, j'ai 29 ans. J'ai commencé la vidéo il y a maintenant 5 ans. J'ai commencé d'abord en France, donc à faire des vidéos. Et puis il y a un peu plus de deux ans maintenant, avec ma conjointe, on a décidé d'aller vivre et s'installer au Canada, et plus précisément donc à Montréal.
Et toi, tu avais quand même un réseau en France développé dans le milieu du mariage, ou finalement, quand tu es parti là-bas, c'était pas très important de laisser ce réseau-là ici?
Bon, en fait, quand j'ai commencé la vidéo, au début, je faisais principalement des vidéos plutôt axées vers tout ce qui était sport extrême, on va dire. Après, j'ai fait quelques projets, donc plus corporatifs. Et grâce à un ami, au fait, j'ai découvert un peu le mariage. Donc, un peu sur le tard, on va dire, quoi. J'ai découvert un peu le mariage. Et donc, j'ai commencé à développer un réseau en France. J'ai commencé à avoir quelques relations, on va dire, quelques prestataires partenaires, on va dire, en France. Mais j'avais pas non plus un grand réseau, quoi.
Et pourquoi le Québec?
Pourquoi le Québec? Très 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 bonne question. Bah, je vais dire que ça a commencé depuis que j'étais tout petit. J'ai toujours rêvé un peu d'aller au Canada. On rêve toujours de ces grands espaces. On voit un peu ça à la télé. On voit les grandes forêts. On voit les grandes routes. On voit tout ça, quoi. Ça
on rêve un de peu se bouffer par un ours.
Oui, voilà, exactement. c'est un peu l'image qu'on a du Canada. Donc il y a quelques années, en fait, j'ai fait un premier voyage au Canada avec un ami d'enfance. Donc on s'était dit on va au Canada, on explore le Canada. Et puis on a vraiment aimé ça, mais on a dû rentrer en France. Et puis après une réflexion, et puis après avoir rencontré ma conjointe, on s'est renseigné, ça nous manquait le Canada. On s'est renseigné, on a voulu repartir au Canada parce que ça nous manquait. Ça nous manquait parce que la culture est différente, parce que les gens sont différents, parce que tout est différent, quoi. C'est vraiment une exploration, quoi.
Et elle est française aussi, hein.
Elle est française, oui. Elle est française, mais on s'est rencontrés au Canada.
Ah, voilà.
Tout s'explique.
Alors, petite question administrative, les démarches pour aller vivre là-bas, parce que j'imagine que, enfin, là, on n'est pas en Europe, hein, tu peux pas décider, enfin, en Europe, tu peux décider d'aller habiter en Espagne si tu as envie. Au Canada, c'est quand même autre chose. J'imagine qu'il y a quand même pas mal de démarches. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire un peu pour aller habiter là-bas?
Alors, y a plusieurs programmes pour s'installer, pour travailler au Canada, en tout cas. Nous, on a bénéficié, au fait, d'un programme qui s'appelle le PVT, donc ça s'appelle le Permis Vacances Travail. Donc c'est un accord entre la France et le Canada qui permet aux jeunes de 18 à 35 ans de pouvoir donc demander ce permis de travail et aller travailler au Canada pendant 2 ans. Donc en ce moment, pour faire ces démarches, en fait, c'est un tirage au sort. Et donc le Canada sélectionne des personnes. Il y a un quota qui est à peu près de 15 000 personnes par an. Et donc on est tiré au sort, et dès qu'on est tiré au sort, on peut donc aller s'installer directement au Canada. Donc c'est vraiment une chance de pouvoir découvrir un pays, et c'est vraiment rapide quand même de le faire.
Mais 15 000 personnes par an, ça fait quand même beaucoup de personnes à absorber. Enfin, je sais pas, c'est quand même pas mal, je trouve.
C'est quand même pas mal, mais le Canada, en fait, c'est vraiment une terre d'accueil, hein. Il y a beaucoup d'immigrés, quoi. C'est vraiment un pays qui a besoin de main d'œuvre, en tout cas, qui en manque de main d'œuvre. C'est un pays tout nouveau. Il y a beaucoup d'infrastructures, mais il y a beaucoup aussi de besoins. C'est pratiquement le plein emploi, surtout dans la région de Québec, là, en ce moment. Donc c'est vrai qu'ils ont toujours besoin de main d'œuvre, en tout cas, pour revenir, que ce soit des petits boulots comme des boulots un peu plus qualifiés. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ils ont beaucoup besoin, quoi.
Et d'un point de vue de la vie courante, quand on vit là-bas, c'est quoi un peu la différence avec la France? Qu'est-ce qui t'a fait penser que c'était mieux d'aller vivre là-bas? Enfin, qu'est-ce qui t'avait donné envie d'aller là-bas, quoi?
Je veux dire que quand j'étais au Canada il y a quelques années, j'ai eu la chance de pouvoir un peu voyager quand même au travers du Canada. Donc le Canada, il faut savoir que c'est 10 provinces. C'est comme si c'était quasiment 10 pays différents. Chaque
oui,
province
à
un
l'échelle
peu
à l'échelle de la France, une province, c'est aussi grand que la France, si c'est plus grand, non, j'imagine.
Bah, le Québec, juste le Québec, c'est la plus grosse province au Canada et ça fait à peu près 3 fois la France en termes de superficie.
Ah ouais, d'accord. Parce qu'on a, c'est vrai que vu d'ici, alors c'est peut-être moi qui suis nul en géographie, mais je n'avais pas l'impression que le Québec c'était si grand en fait.
C'est super grand. C'est super grand, donc ça fait à peu près 3 fois la France en termes de superficie. Mais par contre, au Québec, dans la province de Québec, ça compte à peu près, en moyenne, je crois qu'il y a à peu près 8 millions d'habitants.
Ah oui, donc c'est une ville, c'est une grosse ville française, quoi.
C'est une grosse ville française. Bah, à part Montréal, Montréal regroupe la ville de Montréal et on va dire la périphérie de Montréal, c'est 4 millions d'habitants, donc c'est la moitié du Québec.
On rappelle pour ceux qui ne le savent pas, bon, je pense qu'ils le savent, mais au Québec, on parle français. Mm-hmm. Alors que dans le reste du Canada, on parle plutôt anglais. Alors ça, corrige-moi si je me trompe, mais c'est ça, non ?
C'est ça, ouais. C'est ça.
Et est-ce qu'il y a une... Bon, tu en as un peu parlé, mais est-ce qu'il y a une forte communauté d'expatriés là-bas ?
Beaucoup, ouais. Il y a beaucoup de Français à Montréal. Ce qu'il faut savoir, pour la minute chiffre en tout cas, il y a donc à peu près, là, en moyenne en ce moment, il y a à peu près 100 000 Français qui habitent au Canada. Et sur ces 100 000 Français, il y en a à peu près 70 000 qui habitent au Québec. Donc il y a quand même beaucoup, beaucoup de Français au Québec, beaucoup de Français à Montréal. Mais c'est vrai que la ville de Montréal est divisée en beaucoup de petits quartiers. Et c'est vrai qu'il y a des quartiers qui sont, par exemple, complètement anglophones, où on parle carrément que anglais, quoi, dans certains quartiers de Montréal. Et dans, pareil, contre-exemple, en tout cas, il y a des quartiers où on parle vraiment que français. Et même à Montréal, il y a un quartier qui s'appelle Le Plateau, où ça regroupe beaucoup, beaucoup de Français.
Et toi, alors ça m'amène à une question, mais toi tu, là-bas, tu es plutôt avec des Français ou avec des Québécois ?
Bon, on a choisi d'être plutôt dans le sud-ouest de l'île, de Montréal, parce que Montréal est sur une île en tout cas. Et puis on vit pas dans un quartier français, quoi. On vit dans un quartier vraiment qui est québécois et puis en même temps un peu anglophone.
Et est-ce que tu as été bien accueilli ? Parce que ça, c'est un peu bête, mais quand on voit en France les questions d'immigration, voilà, en ce moment c'est pas super génial. Est-ce que toi, en tant que Français qui vient habiter au Québec, qui vient travailler au Québec, qui vient prendre le travail des Québécois, est-ce que tu as été bien accueilli ?
Oui, vraiment, vraiment. Sincèrement, on se sent vraiment, vraiment bien. On se sent. C'est difficile à décrire, mais on se sent vraiment bien dans la ville de Montréal. C'est ça qui est agréable. Il y a vraiment une qualité de vie qui est vraiment, vraiment incroyable. On s'y sent vraiment bien, on s'y sent en sécurité. Il y a vraiment toutes les communautés. C'est une ville multiculturelle, Montréal. Il y a plein de festivals, il y a plein d'échanges. Et c'est vrai qu'on s'y sent, tout de suite, on s'y sent très très bien. On s'y sent un peu comme à la maison.
Et là-bas, donc du coup, on rappelle que tu es vidéaste. Est-ce que toi, tu es à plein temps vidéaste là-bas ou est-ce que tu fais un autre job ?
Donc, je suis quand même majoritairement oui sur les vidéos, mais je suis toujours aussi consultant en marketing. J'ai fait des études en marketing en fait, donc j'ai encore quand même des petits contrats en tant que consultant.
Et quand t'es allé au Canada, est-ce que tu dois déclarer le travail que tu fais ? Mm-hmm. C'est peut-être bête ce que je dis, hein, j'en sais rien, mais du coup, t'as déclaré quoi ? Comment t'as fait
en
ça ?
En fait, il y a un programme un peu comme en France, un peu comme l'auto-entreprise en France, au Canada, qui fait qu'on peut se lancer directement, on peut facturer directement à son nom et sans faire aucune démarche administrative. Sauf qu'il y a juste, bien sûr, un palier à respecter qui est de mémoire 35 000 $ par an. Donc à partir de ce montant, à partir de 35 000 $ et plus, là, on doit créer donc une société.
Mais ce que je voulais dire, c'est que pour que le Québec accepte que tu viennes, tu dois pas déclarer un métier ou c'est peut-être une question bête. Hein.
Bah avec le permis qu'on a, le permis de travail, donc le PVT, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de critères d'admission, c'est pas des métiers recherchés qu'on demande. Vu que c'est un permis de travail qui est quand même limité dans le temps, qui dure 2 ans, c'est vraiment pour aider en tout cas les gens à s'expatrier, à tester une expérience. C'est vraiment un échange entre le Canada et la France.
Et qu'est-ce que tu fais au bout de 2 ans ?
Au bout de 2 ans, bah, t'as des solutions pour prolonger ton permis de travail.
Ouais, donc tu te fais pas virer ?
Non.
Quand je te parlais en fait du métier qu'il fallait déclarer, je faisais un peu le parallèle parce que je crois qu'en Australie, par contre, il faut que tu déclares ce que tu vas faire, tout ça, et ils t'acceptent ou pas. C'était pour ça que,
ouais,
que
ouais,
je te disais ça.
C'est assez strict quand même, hein. C'est quand même une immigration sélective qu'on a au Canada. Donc c'est vrai qu'après, ils vont essayer de chercher des métiers qui sont plutôt qualifiés ou de la main-d'œuvre qui manque essentiellement.
Et donc, tu en as parlé un petit peu, mais comment tu as monté ta structure là-bas ? Donc, tu nous as dit un peu au début, mais là aujourd'hui, tu en es où ? Tu es encore dans cette situation-là ou tu as monté une société ? Comment ça se passe ?
Aujourd'hui, ouais, j'ai monté une société. Mais c'est beaucoup plus simple qu'en France quand même. Toutes les démarches administratives sont quand même beaucoup plus faciles et efficaces qu'en France, en tout cas.
Et comment tu t'es renseigné par rapport à ça? Tu t'es renseigné là-bas? Tu t'étais renseigné avant? Comment ça se passe? Il y a un accompagnement? Il y a quelque chose ou...
Je m'étais renseigné à distance, mais après, j'ai seulement consulté un comptable directement sur place qui m'a expliqué les différents statuts au fait, à appliquer. Et donc après, j'ai choisi un statut pour monter une société assez rapidement.
Alors, pour ceux que ça intéresse, est-ce que tu peux nous dire quel statut c'est? Il y a un nom? Il y a quelque chose?
On appelle ça une compagnie. Au Canada, c'est vraiment une entreprise, c'est un peu général. Après, on choisit donc entre soit une statut en nom propre, soit un statut donc en
c'est comment en SARL, enfin
exactement.
Voilà, soit en entreprise individuelle, soit en SARL, l'équivalent français, quoi.
Exactement.
Et donc il y a un truc auto-entrepreneur, comme tu disais, qui est un peu la même chose, qui est un peu la même chose qu'en France.
Ouais, exactement. Donc c'est jusqu'à une limite, quoi, par an. Où on ne collecte pas les taxes, un peu comme le statut auto-entrepreneur en France.
Ça y ressemble beaucoup.
Exactement. Mais là, il n'y a vraiment aucune démarche à faire. En fait, tu fais des factures et à la fin de l'année, tu déclares tous les montants que tu as gagnés, perçus, en tout cas, et après, tu es imposé directement sur ces sommes.
Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, quand tu es auto-entrepreneur, il faut quand même faire une démarche avant de commencer à facturer. Alors que là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que là, au Canada, ce n'est pas le cas. Tu peux arriver, faire ta facture et tu n'as rien demandé à personne avant, quoi.
Exactement.
Je te pose la question parce que j'ai des... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Wedding Podcast, c'est aussi un groupe Facebook. Et j'avais posé la question de savoir si des gens avaient quelque chose à demander spécialement à Laurent. Et on m'avait demandé un peu quel statut existait au Canada. C'est pour ça que j'insiste un peu pour répondre à ces gens-là qui m'ont posé la question. Et d'ailleurs, si vous avez des questions sur les prochains invités, n'hésitez pas à aller dans le groupe, à intégrer le groupe. Comme ça, vous pourrez savoir les prochains invités et leur poser des questions. Et d'ailleurs, on m'avait posé une question dans ce groupe. C'est quels sont les problèmes les plus importants que tu as rencontrés et comment tu les as surmontés? Alors, je sais pas si c'est un peu une question générale, mais comme on me l'a posé, je pense qu'elle est importante.
Non, c'est une super bonne question. Mais en fait, j'ai pas rencontré de gros problèmes. Le plus gros problème, bien sûr, c'est de se faire connaître, c'est créer un réseau directement là-bas, parce que je connaissais très peu de personnes. J'ai quelques amis, quelques connaissances sur place directement, mais c'est vrai que dans le monde du mariage, en tout cas, j'avais très très peu de contacts, voire pas du tout. Donc le plus dur, c'est vraiment de se faire connaître et de s'habituer, de connaître une nouvelle culture. Ça, je pense, c'est le plus gros défi à relever, parce que c'est vrai qu'on arrive avec ses connaissances, on arrive avec tout ça, avec son bagage, voilà. Exactement. Et en fait, bah, il faut se remettre à zéro, quoi. Faut se remettre en question soi-même, faut remettre en question son travail, faut beaucoup écouter, beaucoup regarder ce qui se fait. Ça prend du temps. Et c'est cette phase, on va dire, d'adaptation qui est un peu plus longue parce qu'on découvre une nouvelle culture, un nouveau pays, un nouveau continent. Donc il y a tout à réapprendre.
Donc tu m'as fait une transition parfaite avec le mariage, parce que j'allais plutôt partir sur le milieu du mariage. Donc toi, t'es arrivé là-bas, donc t'as voulu continuer ta carrière de vidéaste de mariage, que tu fais très bien d'ailleurs, hein, je vous invite à aller voir ce que fait Laurent, parce que c'est super. Comment t'as fait? T'as fait une étude de marché? T'as regardé ce qui se faisait? Est-ce que les formes, enfin tu vois, le format, le prix, enfin c'est des trucs comme ça, t'arrives dans, comme tu viens de le dire, il faut t'adapter. Comment t'as fait toi? Quelle a été ta démarche pour arriver à trouver, à t'adapter au marché? Parce que il faut, comme en France d'ailleurs, hein, il faut quand même s'adapter au marché, parce qu'il y a ce qu'on veut faire, mais il y a ce que veulent les gens. C'est bête, mais quand même, en plus en faisant du marketing, tu le sais. Mm-hmm. Et du coup, comment t'as fait un peu tout ça?
Bah, c'est vrai qu'avant de partir, je m'étais quand même renseigné, donc en allant voir donc les annuaires locales au Canada, au Québec, pour voir ce qui se faisait à peu près, les styles que les gens appréciaient en tout cas. C'est vrai qu'en termes de vidéastes, il n'y en a pas beaucoup dans la région, dans la province du Québec en tout cas. Donc c'était vraiment quand même une opportunité à prendre. Après, c'est vrai que le style, on va dire, que les vidéastes européens ont n'est pas forcément le style recherché par les gens en Amérique du Nord. Donc là aussi, il a fallu un peu s'adapter. Les cultures sont différentes, les mariages sont différents, donc il a fallu un peu s'adapter et puis changer sa façon de fonctionner un peu.
Et quand tu parles de style européen qui n'est pas forcément en phase avec ce que veulent les Nord-Américains, tu peux nous donner des exemples un peu? Parce que moi, tu vois, par exemple, tout de suite, je vois pas trop ce qui pourrait déplaire ou en tout cas, c'est pas ce qu'ils attendent, mais voilà, est-ce que tu peux nous donner un exemple?
Oui, bah je pourrais dire que les vidéastes européens, on va dire, c'est pas en majorité, hein, je généralise,
oui,
un peu
bien
là,
sûr,
directement.
Après on s'adresse pas, on n'a pas quelqu'un en exemple, c'est on fait un truc global, c'est juste pour avoir un exemple, quoi.
Je dirais que les vidéastes européens vont beaucoup chercher un peu les détails, les flous d'optique, les flous artistiques, toutes ces petites choses en fait, toutes ces petites choses qui puis comparé à des nord-américains, plutôt, ça va être plutôt, on va dire, comme des gros blockbusters, quoi, comme des grosses productions américaines, donc où il faut que tout soit stabilisé, qu'on voit tout, que la lumière soit parfaite, que tout soit très très bien cadré. Donc je dirais que c'est ça, c'est difficile à expliquer un peu cette différence.
Non, mais j'en suis sûr que tu l'as bien illustré, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de vidéastes européens qui font à la main, sans stabilisateur, parce qu'on aime peut-être ce côté organique un peu, voilà. Et je vois très bien ce que tu veux dire quand tu veux dire le truc un peu blockbuster. Enfin, c'est presque une grue. Presque, il faudrait une grue, il faudrait un slider, un machin. Enfin, vraiment, le truc hyper carré, quoi. Enfin,
c'est ça.
C'est Avengers, quoi.
Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Il faut que ce soit la grosse production, quoi. Il faut que tout soit bien. Et c'est vrai que ça change un peu de ce qu'on peut voir en film européen, en tout cas.
Et toi, du coup, t'as essayé de proposer ce genre de truc ou t'as essayé de trouver des gens qui aimaient ce que tu faisais? Ou est-ce qu'il y avait peut-être un mix des deux, je sais pas.
Bah, je suis resté quand même focus sur mon style. J'aime beaucoup ça et je vais pas forcément changer tout, en tout cas pour ça. Donc c'est vrai que des gens en fait ont en tout cas aiment ça, c'est vrai qu'ils viennent me parler directement et puis ils aiment beaucoup mon style et puis ça marche bien, quoi. Ils ont confiance en moi, ils savent exactement ce qu'ils veulent et puis ils me le disent aussi. Les gens qui apprécient ça me disent: ah, ça me fait penser un peu à un style européen, tout ça. On retrouve un peu ces choses là
bah, t'es le petit Frenchie du coin, quoi,
un peu.
Et donc t'en as parlé un peu, il y a pas beaucoup, tu me disais qu'il y a pas beaucoup de vidéastes dans le coin. Est-ce que quand même tu les as rencontrés? Est-ce que t'as essayé de créer un réseau avec eux? Est-ce que vous vous entraidez? Parce que c'est vrai que moi personnellement, dans le sud de la France, je connais pas mal de vidéastes. On essaye de s'entraider, on essaye de pas être tout seul dans son coin. Est-ce que toi t'as fait cette démarche un peu?
Le gros changement, je vais te dire, c'est quand j'habitais en France, j'habitais pas forcément dans une grande ville, donc c'est un peu la première fois que j'habite quand même dans une grande ville. Quand même 2 millions d'habitants, donc c'est vrai qu'on peut plus facilement trouver des gens qui ont les mêmes passions que soi, en fait. C'est facile, le réseau métro, bus à Montréal est super grand, on peut aller très rapidement d'un côté à l'autre de l'île de Montréal. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de rencontrer des gens, et c'est vrai que tout de suite j'ai quand même rencontré pas mal de prestataires des vidéastes de mariage, en tout cas, à Montréal, et ce qui m'a permis de connecter et de savoir un peu plus comment eux fonctionnaient, et puis eux aussi avaient des questions sur comment moi je fonctionnais, donc c'est super intéressant, c'est super enrichissant. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup quand même qui apprécient ce style, cette nouveauté, en tout cas, parce que c'est vrai qu'eux, ils sont beaucoup focus sur le style nord-américain, donc ça change.
Du coup, toi, t'amènes de la nouveauté alors que c'est finalement ce que tu faisais ici, quoi.
Exactement.
Ah, écoute, bravo, bravo. Si, donc si vous voulez faire comme, si vous faites pareil que Laurent, allez-y, vous aurez peut-être du boulot. Et du coup, est-ce que tu fais des mariages de francophones ou est-ce que tu fais aussi des mariages anglophones au Canada?
Je fais plus de mariages anglophones quand même à Montréal.
C'est un choix ou ça tombe comme ça?
Je vais dire qu'en même temps, dans la culture, les Québécois font des mariages, mais ne font pas non plus des gros mariages.
Ouais, mais ça va avec le blockbuster finalement.
Exactement, exactement. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent à Montréal se marier. Il y a beaucoup, par exemple, de New Yorkais ou sinon des gens de Miami qui viennent carrément se marier à Montréal.
Ah d'accord.
Pourquoi ? Parce que c'est quand même moins cher en fonction de la monnaie. Et de différents critères, en fait, c'est beaucoup moins cher de venir se marier à Montréal. Donc, ils en profitent, ils ont un plus gros pouvoir d'achat et donc ils peuvent se faire plaisir en ayant en tout cas des plus beaux lieux de réception ou d'autres prestataires, en tout cas.
Et est-ce que tu as déjà fait des Français, des gens de France, quoi, au Canada? Ça se fait ou ça se fait pas? Je sais pas, c'est peut-être bête,
ça,
mais.
Ça se fait, mais j'en ai pas encore fait.
Ah! Tu t'en parlais un petit peu tout à l'heure, est-ce que tu notes des différences culturelles majeures entre les mariages français et les mariages nord-américains? Enfin, est-ce que tu peux nous en parler, nous donner un peu des exemples de ce qui peut être comme différence?
Ah oui, il y en a énormément. Le mariage, c'est vrai, en Amérique du Nord, en tout cas, est beaucoup plus rapide, plus court qu'en Europe, en tout cas. Ça commence déjà par la cérémonie. Les cérémonies sont beaucoup, beaucoup plus courtes. Ça va de une vingtaine de minutes jusqu'à 35 minutes pour les plus longues.
Alors que nous, quand c'est 35 minutes, c'est une cérémonie qui est courte.
Exactement. Non, ça va, c'est beaucoup plus rapide. La journée aussi se termine beaucoup, beaucoup plus tôt. Donc c'est un bon point pour les prestataires, parce que c'est vrai que il y a pas beaucoup de mariages qui finissent après minuit. Donc c'est la même règle pour tout le monde. Tous les lieux de réception finissent à peu près entre minuit et 1 heure grand maximum. Donc ça change. Les grosses différences aussi, c'est que le repas est beaucoup plus rapide. Il n'y a pas beaucoup d'animation. en tout cas sur la journée même de mariage. Et puis après, en globalité, il y a beaucoup plus de cérémonies laïques qu'en France, quand même. Et très peu d'églises. Ils vont très peu à l'église. Et puis, il n'y a pas de mairie. On ne va pas à la mairie pour signer les papiers. On va soit, donc, on a un officiant qui est reconnu, en tout cas, pour faire signer les papiers.
Soit on va directement. Pendant la cérémonie laïque ?
Pendant la cérémonie laïque. Sinon, ça se passe chez le notaire. Donc, c'est soit les gens en fait vont directement chez le notaire avant pour signer les papiers du mariage.
Là, tu n'interviens pas parce que c'est pas très glam.
Exactement. Donc, c'est vraiment une signature de papier dans un petit bureau quoi, chez le notaire.
Ouais, c'est super.
Pas très glamour. Et puis après, c'est vraiment la fête, le party, comme on dit au Canada.
Il y a une autre différence que moi j'ai notée quand je vois des Nord-Américains qui viennent se marier ici. Alors, je dis Nord-Américains parce que ça peut être des Canadiens, ça peut être des Américains, je veux pas. Voilà. Il y a pas mal de discours, non?
Il y a pas mal de discours, ouais.
Parce que moi, je sais que quand je filme des Américains ou quoi, je me dis, bon, pendant la soirée, tu vas prendre le trépied et le monopode, parce que sinon, tu auras plus de bras, quoi.
Ça remplace les animations, ouais. C'est vraiment les speeches, donc c'est quelque chose qui est fondamental, quoi. Donc, pendant le repas, alors, entre les plats, en fait, chacun, un membre de la famille proche, bien sûr, va faire un speech pour remercier, pour féliciter les mariés, ouais.
Mais c'est presque obligatoire.
C'est obligatoire.
Ouais, tu peux pas passer outre, quoi. Enfin, t'as vraiment l'impression que si tu le fais pas, ça va pas aller, quoi.
C'est ça. Non, c'est ça.
Et il y a une espèce de truc dans l'inconscient collectif français, j'ai l'impression, qui fait qu'on a l'impression, et peut-être c'est à tort, hein, c'est pour ça que je te pose la question, que dans tous les mariages nord-américains, il y a des wedding planners. Je veux dire, on a l'impression que les gens ne savent pas organiser leur mariage sans wedding planner aux États-Unis et peut-être au Canada. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ?
C'est en majorité, ils ont des wedding planners, en majorité. Après, c'est tout le temps pareil, on va dire, ça dépend du nombre d'invités, du budget à peu près global du mariage en tout cas, mais oui. En général, il y a quand même beaucoup plus de wedding planners, il y en a souvent, très souvent.
Et par rapport à ce que tu faisais en France, tu notes qu'il y en a beaucoup plus que les mariages que tu faisais en France ou que tu fais encore en France ou...
Oui, quand même, ouais.
Et t'es rentré en contact toi un peu avec ces wedding planners? C'est elles qui te bookent ou c'est les mariés qui te bookent? Enfin, comment ça se passe? C'est pareil qu'en France ou pas?
Beaucoup, en fait, le réseau est encore... plus important, on va dire, en Amérique du Nord, c'est même indispensable d'avoir son réseau. On a beau avoir le meilleur site internet, on a beau avoir le meilleur référencement, si on n'a pas le réseau derrière, ça va être compliqué de démarrer en tout cas sa carrière. Donc et c'est vrai qu'il faut avoir un réseau.
Et toi, comment tu l'as constitué ce réseau? T'es allé taper aux portes? T'as attendu qu'on t'appelle? Enfin, comment tu fais quand t'arrives de nulle part et que...
Je me suis forcé. Je suis de nature un peu discret, et pas non plus très, on va dire, tout le temps en train d'être sorti. Mais je me suis forcé à sortir quand même, à rencontrer des gens. Mais le fait que ce soit une grande ville, quand même, c'est beaucoup plus simple. Et il y a beaucoup quand même. Il y a quand même pas mal de rencontres entre prestataires du mariage, donc à Montréal. Et ce qui m'a aidé en tout cas à créer un petit réseau, en tout cas autour de moi.
Et donc t'es allé dans ces soirées-là, et histoire d'un peu rencontrer du monde et...
Discuter, faire des projets, commencer par des shootings d'inspiration, commencer par à faire un peu tout ça, quoi, faire du réseau carrément, en partageant avec les prestataires avec qui je sentais qu'on pouvait faire des projets en commun en tout cas. Et puis pour certains, ça match, quoi, parce que c'est vraiment ça, ce qu'ils recherchent en tout cas, quoi.
Et donc le rôle de la wedding planner a l'air en tout cas beaucoup plus important en France, parce que... Moi, c'est vrai que des fois, il y a des débutants qui viennent me voir, qui me disent est-ce que tu penses qu'il faut forcément démarcher les wedding planners? Moi, je leur dis, en France, tu peux démarcher les wedding planners, mais tu peux très bien faire ta saison sans jamais voir une seule wedding planner. Alors après, quand tu arrives à un certain niveau de mariage, il y en a, hein, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas, mais quand même, globalement, tu peux très bien faire tes saisons sans wedding planner. J'ai l'impression que tu es en train de me dire qu'au Canada, c'est un peu moins le cas, quoi. Si, c'est un peu le... S'il y a un prestataire à démarcher, c'est peut-être celui-là, quoi.
Mm-hmm. Ah, exactement. Exactement. C'est super important parce qu'en fait, de mon impression, en tout cas personnelle, c'est vrai que j'ai l'impression que les gens ne vont pas forcément aller soit sur les blogs, soit sur les sites, soit faire des recherches par eux-mêmes sur Vimeo, sur YouTube pour aller chercher un vidéaste ou un photographe, mais plutôt vont faire confiance directement à leur wedding planner et elle ou lui va tout organiser et va proposer en tout cas le prestataire qui pourrait donc aller avec le style des mariés.
Et ça me fait penser à un truc, mais c'est qui te book? Tu signes avec la wedding planner? Ou est-ce que, comme en France, tu signes la plupart du temps avec les mariés? Alors en France, ça peut changer, hein, mais moi, c'est vrai, quand je travaille avec des wedding planners, généralement, je signe avec les mariés, c'est la wedding planner qui m'a présenté. Comment ça se passe là-bas?
Je dirais que ça dépend vraiment. C'est vrai que quand c'est des Américains qui viennent se marier à Montréal, ça peut passer directement par la wedding planneuse directement. S'il y a un peu plus de proximité, qu'on a le temps d'aller voir les clients, généralement ça va se passer en direct, mais ça va venir certainement d'une recommandation d'une wedding planner.
Et j'insiste un peu sur les wedding planners parce que c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu différent par rapport à la France, mais c'est vrai qu'en France les wedding planners elles sont un peu submergées par le nombre de demandes et pas, voilà, elles ont toujours l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui veulent travailler avec elles. Toi petit français qui arrive au Canada, comment tu fais ton trou? Par tes images déjà, mais bon.
C'est vraiment, ça passe vraiment par tout ce qui est rencontre, donc les petits after work, les petits apéros, en tout cas après travail, pour aller rencontrer des gens, pour se démarquer, pour proposer des nouveaux projets. Je pense qu'en Amérique du Nord, tout le monde est bienveillant par rapport à celui qui veut lancer des projets, celui qui veut faire des choses, et donc on va l'inciter à le faire et ça va démontrer que tu veux travailler. Il y a un peu ce American Dream quoi, au Canada, toujours un peu pareil qu'aux États-Unis quoi, qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de limites, tout le monde peut faire à peu près ce qu'il veut, donc ça pousse les gens à faire de nouveaux projets, à avoir des nouvelles idées, à être de plus en plus créatifs, et je pense que c'est ce que recherchent en tout cas certains wedding planners.
Ouais. Ouais, donc c'est un peu une autre mentalité à adopter, enfin bon après tu peux faire ça en France, hein, mais je veux dire c'est peut-être voilà, ce truc d'American Dream à justement essayer de forcer un peu pour arriver à faire ton trou par rapport au wedding planner.
Ouais, vraiment.
Et on parlait un peu de différences. Est-ce que les mariés, ils ont des attentes ou des exigences différentes par rapport à ici? Je sais pas, c'est peut-être une question bête, mais...
Pas tant, je dirais, parce qu'en tout cas, pour les vidéastes, moi je sais que je suis quand même assez discret sur le jour du mariage, donc je laisse vivre les mariés, c'est très très naturel, en tout cas ma vision de la vidéo de mariage, du film de mariage. Donc c'est vrai que je sens pas trop cette différence par rapport à la France. C'est juste vraiment les coutumes à connaître qui sont différentes par rapport aux cérémonies, aux speeches, comme tu l'as dit précédemment. Mais sinon, à part ça, c'est assez semblable.
Et en France, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de mariages qui ont des vidéastes. Enfin, en tout cas, c'est pas la grande majorité. C'est un peu pareil au Canada, ou est-ce qu'il y en a un peu plus? Comment ça se passe? Déjà, tu me disais qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéastes à Montréal, donc peut-être c'est un peu la réponse déjà, peut-être, je sais pas.
Ouais, il n'y a pas beaucoup de vidéastes à Montréal. Il n'y a pas non plus énormément de gens qui prennent un vidéaste, en tout cas, mais il y a quand même beaucoup de mariages. Donc c'est vrai qu'il y a encore un déséquilibre. Je pense que c'est un peu tout nouveau. Je pense qu'il y a des choses à faire, en tout cas, au niveau de la vidéo au Québec.
C'est rigolo que tu me dises que c'est tout nouveau, parce que finalement... Ça me paraît pas être un média nouveau, mais...
Ouais, c'est vrai, mais je dirais qu'en Amérique du Nord, il y a des choses, t'as l'impression que c'est un peu en retard. Il y a des choses, j'ai pas d'exemple concret là tout de suite, mais t'as l'impression qu'ils sont en avance sur certains points et peut-être en retard sur d'autres points, on va dire. Sans généraliser, bien sûr.
Oui, non, mais c'est pas une question de valeur. Hein, c'est...
Mais après, tu peux par exemple aller à Toronto, où là-bas, le marché du mariage est vraiment ultra développé. Il y a beaucoup de photographes, il y a beaucoup de vidéastes, il y en a qui vont à l'international... C'est un autre monde, et pourtant c'est que à 500 km de Montréal quoi.
Ouais.
Pour le Canada c'est que 500 km.
Ouais, c'est que 500 km, ce que j'allais dire, 500 km en France quand même, ça commence à être pas tout à fait à côté quoi.
Ouais.
Et avec les autres prestataires locaux, comment c'est passé? Bien accueilli aussi, j'imagine. Enfin.
Ouais, bien accueilli. Il y a pas vraiment de concurrence en tout cas entre les prestataires au Canada. Je sens pas vraiment. Chacun a vraiment son style, fait son style et promouvoit son style.
Et en termes de communication, parce que ça c'est une question qu'on m'a pas mal posée dans le groupe et sur Instagram, est-ce que tu communiques déjà on a vu qu'il y avait le réseau qui avait l'air pas mal important, mais en termes de communication, est-ce que la manière est différente de celle de la France? Alors déjà t'as répondu partiellement, parce que c'est vrai qu'en France tu peux bosser sur ton site internet et avoir peut-être un tout petit peu moins de réseau, même si comme vous l'avez constaté dans un épisode précédent, le réseau est important, mais voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu les différents vecteurs de communication qui sont peut-être différents ou peut-être les mêmes, je sais pas.
Bah, je communique essentiellement, on va dire, quand même par Instagram. Donc c'est vrai que je mets un peu plus d'énergie sur mon compte Instagram pour me faire connaître. Après, mon site internet, bien sûr. Et puis après, c'est vraiment le réseau. Le réseau qui joue une grosse partie, en tout cas, dans ma communication aujourd'hui.
Et on m'a aussi posé la question du prix des prestations. Alors ça, je trouve que, je sais pas si c'est une question qui est pertinente, parce que le prix va avec la va avec le niveau de vie sur le lieu. Comme tu disais, quand tu viens, quand tu es New-Yorkais et que tu vas au Canada, tu y vas parce que ton niveau de vie à New York fait que tu as un meilleur mariage au Canada. Mais bon, voilà. Mais du coup, en termes de. Alors, sans nous dire le tarif, machin, on s'en fout, mais est-ce que tu arrives à avoir des tarifs similaires par rapport à la France ou qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça?
Bah, prestations égales, on va dire qu'on est dans les mêmes prix.
Ouais, si, en termes de niveau de vie, si tu fais la même chose, tu es à peu près.
Ouais, exactement. Bah, pour mon cas personnel, c'est vrai que je paye quand même moins d'impôts au Canada, mais c'est vraiment mon cas personnel. Après, ça s'adapte forcément en fonction des gens. Mais
parce que tu fraudes aussi, parlons-en. Enfin,
oui, voilà. Tu l'as pas dit, mais oui, bien sûr, on en est là. Mais non, en fait, la plus grosse différence, je vais dire que c'est plutôt en Amérique du Nord, tout se fait à peu près, c'est des forfaits à l'heure en fait. Donc les prestataires fournissent des forfaits par exemple de 6h, 8h, 10h, 12h. Comme les mariages des fois durent relativement peu de temps. Et là c'est vrai, bah, ça va coûter bah, un peu moins cher si on est sur un forfait de 12h alors qu'en France on va filmer toute la journée. Donc c'est un peu dur de comparer un peu les deux. Parce que c'est vrai qu'en France on peut avoir des journées où on commence à 9h du matin, on finit à 2-3h du matin. C'est vrai qu'au Canada on peut facilement commencer la journée à 13h et la finir à 23h minuit. Donc c'est un peu dur de faire des comparaisons quand même. Mais je vais dire que c'est quand même semblable au niveau des tarifs.
Et ce que tu me disais, alors, par rapport à l'heure, c'est que tu me disais que vraiment, au Canada et aux États-Unis, l'heure, c'est l'heure, quoi.
L'heure, c'est l'heure.
Parce que tu me faisais une anecdote en off tout à l'heure, que t'avais bossé avec certains prestataires qui, à l'heure où ils partaient, s'ils voulaient une heure supplémentaire, ça coûtait une blinde. Est-ce que tu peux nous dire ça? Parce que ça m'avait fait rigoler tout à l'heure quand tu disais ça.
Bah, je pense que l'Amérique du Nord est connue pour tout ce qui est contractuel. Et ça ouais. Se confirme, je peux vous le confirmer, c'est vraiment très, très contractuel. Donc, l'heure, c'est l'heure. Donc, pour moi, pour ma part, en tout cas, c'est difficile de dire, bah non, je vais pas rester une demi-heure de plus, une heure de plus. Et devoir
facturer,
c'est compliqué.
Parce que c'est culturel aussi. Enfin, moi, je sais que je suis pas à la demi-heure près, mais voilà, si tu peux nous en parler, ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'était rigolo, mais c'est vrai que l'heure, c'est l'heure, quoi.
L'heure, c'est l'heure. Ça dépasse d'une minute, la personne sera partie, quoi. C'est compliqué, c'est vraiment culturel. Quoi. C'est vrai que ça choque un peu sur le début, mais c'est comme ça.
Et juste pour revenir sur l'anecdote que tu m'avais dit, qu'il y avait un vidéaste ou un photographe, je sais plus, qui devait partir et qui lui ont facturé une heure supplémentaire, lui ont facturé une blinde. Juste, tu peux nous le raconter parce que ça m'avait fait marrer tout à l'heure.
Oui, en fait, j'étais sur un mariage et donc j'étais second shooter photo et exceptionnellement sur un mariage. Et donc il y avait un vidéaste et son contrat se terminait à 23h. Mais il y avait un tout petit peu de retard dans le planning du mariage, donc ça a été un tout petit peu décalé. Et le marié est venu voir le vidéaste qui était en train de ranger son matériel, lui a dit bah, « s'il te plaît, est-ce que tu peux rester un tout petit peu ? Il y a encore des animations qui se passent, il y a encore des choses qui se passent au mariage. » Et le vidéaste, il travaillait donc pour une entreprise et a dit donc qu'il fallait contacter directement son manager pour voir s'il pouvait rester. Donc le marié a dû appeler le manager pour voir si c'était possible de rester un peu plus longtemps. Et il y a eu un accord, mais en tout cas ça coûtait pratiquement le même coût que le mariage global, la prestation globale du vidéaste pour une heure, deux heures supplémentaires. Donc c'était vraiment c'était une bonne anecdote, quoi. C'était vraiment
Et tu me disais aussi que dans certaines quand tu étais allé travailler aux États-Unis, dans certaines salles tu avais des décharges, tu peux nous le redire,
oui, tout est contractuel, donc dès qu'on arrive directement donc sur un lieu de réception, c'est vrai qu'on doit la majorité du temps signer une décharge comme quoi qu'on est responsable de son matériel, que s'il se passe des choses on est responsable. Donc c'est un petit coup de pression, quoi, avant de commencer le mariage, quoi.
C'est un peu flippant, ça, pour un cerveau de français, non? Enfin, je sais pas.
Ça surprend, mais finalement, c'est comme ça, on s'habitue. C'est des codes qui n'existent pas forcément en France, et puis c'est une nouvelle culture, donc on s'y adapte.
Et par rapport à ce que tu viens de dire, t'as pas des assurances particulières à souscrire, justement, pour si tu fais tomber un verre, je sais pas.
Bah après, c'est des assurances professionnelles, mais qu'on a sur notre matériel, mais pas plus que ça, quoi. C'est y a pas de.
Parce que si tu te prends un procès au cul parce que t'as fait tomber un vase, c'est quand même touchy, quoi.
C'est là où il faut choisir sa bonne forme d'entreprise, quoi. Soit en nom propre, soit en société, quoi, directement.
Oui, parce que si t'es en société, tu as moins de part de responsabilité par rapport à ça.
Exactement. Ouais.
Donc du coup faut quand même parce que quand t'es en le premier truc que tu disais qui ressemble à l'auto-entrepreneur, du coup t'es en nom propre. Ce truc là, donc là s'il t'arrive un truc c'est compliqué, quoi.
Ouais, exactement.
Est-ce que tu fais encore des mariages en France?
Oui, toujours, en Europe, oui.
Et tu les recherches, ces mariages? Comment tu les touches, du coup, parce que t'es plus là? Enfin, raconte-nous un peu cette histoire.
Je les recherche, oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui manquent en France, quoi. C'est vrai que le Canada, c'est quand même un pays assez récent. Là, il y a 2 ans, le Canada a fêté ses 150 ans, pour te dire. Ouais, c'est un pays tout nouveau, quoi. Donc,
France, la première pierre, elle a 300 ans, quoi. Enfin...
Exactement. Donc, c'est vrai que des fois, ça manque. Moi, j'adore, en tout cas, tout ce qui est lieu de réception en extérieur, tout ce qui est donc un peu avec un cachet qui est vraiment authentique. Et c'est vrai qu'on a du mal à retrouver quand même des lieux de réception qui sont comme ça au Canada. Il y en a, mais c'est vraiment dur d'en trouver, quoi. Donc c'est vrai que j'affectionne quand même de revenir en Europe pour pouvoir avoir des lieux de réception quand même magnifiques, quoi. Parce qu'on en a des très très beaux.
Et ça ressemble à quoi un lieu de réception au Canada, vu que tu nous parles de ça, enfin...
Bah là on va aborder un autre petit point, c'est parce que comme la météo est quand même assez compliquée...
Ah bah oui, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais effectivement tu vas pas faire le cocktail à 18h dehors peut-être.
Exactement, bah, il faut savoir que l'été est quand même chaud, mais même parfois très très chaud et très humide. Et on n'est pas à l'abri en tout cas d'orages qui arrivent et qui sont assez violents. Donc c'est vrai qu'il y a peu de lieux de réception qui sont 100% à l'extérieur. On n'a pas la chance du sud de la France où il fait quand même relativement beau tout l'été. On croise les doigts, mais pratiquement tout l'été. Donc c'est vrai que la majorité en tout cas des mariages se passe soit à l'intérieur dans des salles, soit donc sous des chapiteaux ou soit à l'extérieur, mais il y a toujours un backup en tout cas pour faire tout à l'intérieur parce qu'on n'est jamais à l'abri, quoi.
Et du coup, comme c'est des lieux de réception qui sont forcément récents, on est sur peut-être une architecture un peu récente et il n'y a pas ce cachet dont tu parlais, j'imagine.
Mm-hmm. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment, il y a des très 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 beaux lieux, mais il n'y en a pas beaucoup.
Et comme tu es au Canada, comment tu fais pour le toucher ces mariages en France? Parce que moi, si demain je veux me marier, je vais pas aller prendre un vidéaste qui est au Canada. Je me dis, ça va être un peu compliqué.
Mmh. Ouais, j'ai toujours des vidéos faites filmées donc en France sur mon site internet pour faire donc la promotion que je fais aussi des films en France. J'ai toujours aussi un peu mon réseau un peu quand même en France, donc j'ai quand même quelques prestataires que je connais ici et qui me mettent sur quelques contrats de temps en temps, donc ce qui me permet aussi de rentrer aussi en France quand même.
Et donc tu vas pas forcément les chercher, ces contrats là ils viennent plus à toi qu'autre chose.
Mm-hmm, ouais.
Tu vas pas spécifiquement communiquer là-dessus, j'imagine.
Non, c'est pas vraiment J'aime rentrer en France, j'aime faire des événements en France, mais c'est vrai qu'il faut que ça tombe bien à la bonne date et qu'il y ait beaucoup de paramètres en tout cas qui doivent s'aligner pour que je puisse revenir.
Et comment tu gères ça avec les mariés qui te contactent pour venir en France? Parce que en termes de frais de déplacement, c'est pas comme si tu les faisais venir du nord de chez toi. Enfin, comment tu t'organises un peu par rapport à ça?
Je veux dire, l'avantage par rapport à Montréal, c'est quand même les prix des billets d'avion sont quand même... Ok, on va dire. c'est pas non plus exorbitant de faire un France-Montréal. Il y a des vols directs, il y en a souvent. Il y a même des villes de province. Tu peux partir de Toulouse, de Bordeaux, de Lyon, de Nantes, de Nice. Donc il y a pas mal de vols directs. Et puis sans compter les hautes saisons, tu peux avoir quand même des prix relativement intéressants. Tu peux trouver des allers-retours à partir de 450-500 euros sur Internet en vol direct.
Ah oui, donc c'est faisable en tout cas.
C'est faisable.
Et j'imagine qu'en plus, tu essayes de regrouper peut-être plusieurs prestations quand tu sais que tu vas rentrer, je sais
ouais.
pas.
Ouais, c'est ça. C'est ce que j'essaye de faire la majorité du temps. Et j'essaye de me bloquer au fait des périodes pour venir en France et essayer d'avoir quelques mariages en tout cas.
Et est-ce que tu as déjà eu, alors ça c'est un peu le truc compliqué, est-ce que tu as déjà eu des Canadiens qui t'ont fait venir en France pour faire leur mariage en France? Là, on est un peu dans le truc un peu compliqué, mais je sais pas, ça me paraît faisable peut-être, je sais pas.
Bah, y en a. En fait, je dirais qu'il y a de plus en plus, par exemple, de couples où il y a le marié qui est français, peut-être la mariée qui est canadienne, ou vice-versa en tout cas. Et donc ça peut en tout cas se produire. J'ai pas eu encore l'occasion, mais c'est sûr que ça va se produire de plus en plus dans les années à venir, parce que c'est de plus en plus facile en tout cas de s'expatrier, d'immigrer, et puis c'est ça.
Et tu crois qu'il y a une espèce de passerelle entre... Parce que par exemple, si t'es wedding planner et que t'as envie de toucher des couples canadiens québécois, si t'es wedding planner française, toucher des couples québécois, c'est faisable, c'est compliqué, comment tu le ressentirais, toi, ce truc-là?
C'est quand même faisable, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Le gros avantage, on va dire, qu'à Montréal, pour les wedding planners, en tout cas, c'est qu'elles parlent français et anglais couramment. Donc ça, c'est un gros avantage parce que c'est vrai qu'elles peuvent toucher plusieurs types de clientèle en tout cas. Donc c'est vrai qu'une une wedding planner québécoise peut très bien venir en France et décider de monter un business et d'essayer de toucher donc soit des francophones, soit des anglophones. Parce qu'ils parlent, c'est un des gros avantages de Montréal, c'est qu'on parle parfaitement l'anglais et le français. Donc je trouve que c'est un gros avantage.
Et une wedding planner française, est-ce que tu crois qu'elle arriverait à toucher des couples canadiens ou comme il y a beaucoup déjà de wedding planners, ça paraît compliqué?
Je pense que le style européen est quand même recherché par une clientèle. Donc c'est vrai que c'est une niche, c'est une ultra niche peut-être, mais en tout cas c'est sûr qu'il y a une clientèle pour ça.
Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voilà qui t'écoute, qui dit il a l'air de sympa ce mec, j'aimerais bien faire comme lui. Est-ce que tu donnerais un conseil à quelqu'un qui voudrait s'installer au Canada, qui voudrait faire un peu comme toi, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil?
Sincèrement, avec les démarches qu'on a là, le permis vacances travail, c'est la chose. Si vous avez entre 18 et 35 ans, que vous avez envie d'explorer le monde, que vous aimez en tout cas, vous avez le goût du voyage. C'est vrai que c'est une opportunité, quoi. C'est une chance parce que l'expatriation, ça va vous amener plein de belles choses, quoi. C'est vrai que ça va vous faire sortir de votre zone de confort parce que vous repartez à zéro, vous n'avez plus de repères, vous n'avez pas forcément les proches, les amis qui sont autour de vous. Mais à côté de ça, vous pouvez vous créer votre monde, vous pouvez tout repartir de zéro, vous n'avez aucune limite. Et c'est une chance extraordinaire parce que c'est vrai que ma conjointe et moi, on adore voyager, on a la passion du voyage. C'est vraiment quelque chose qui est en nous. Et en étant à Montréal, on sent vraiment en voyage, mais en même temps, on peut travailler. Donc, tu vois, c'est un peu une bonne balance.
C'est
l'équilibre entre pouvoir voyager, découvrir chaque jour de nouvelles choses et en même temps être dans un pays, avoir sa petite routine aussi parce que on a notre petit chez nous. Et puis, c'est ça qu'on aime. On se voit pas forcément vivre toute notre vie au Canada et à Montréal, mais en tout cas c'est une superbe expérience, quoi.
Et toi, du coup, t'en es où là du temps qui te reste pour ton visa? Comment ça va se passer après?
Alors là, on a déjà expiré donc notre permis vacances travail. Donc ma conjointe travaille dans une entreprise et donc on a pu donc prolonger un autre visa de travail en tout cas. Et on est en attente d'avoir donc notre résidence permanente au Canada. Parce que chose qui devrait arriver au cours de l'année 2020. Là.
Et c'est quoi est-ce qu'il y a des critères particuliers, à part peut-être avoir un job et...
Oui, là, il faut faire un dossier d'immigration, donc avec plusieurs détails sur qu'est-ce qu'on a fait comme emploi précédemment, quel voyage on a fait, quelles études on a fait, par exemple. Et donc, à partir de tout ça, ça fait que le Canada peut te sélectionner pour être résident permanent au Canada.
On arrive un peu au bout de cet entretien qui, je trouve, a été vraiment passionnant. J'ai juste une petite question d'Aurélien qui, est-ce que l'Apple Store, ça va te manquer? Parce que je sais qu'il va nous écouter. Est-ce que tu peux lui faire un message peut-être?
Aurélien, je t'attends à Montréal. Il faut que tu viennes surtout pour toi, surtout parce que Montréal, c'est un endroit où c'est vraiment fait pour Aurélien comme toi, un artiste. Il y a beaucoup de festivals, il y a 100 festivals par an à Montréal, donc en moyenne, donc ça fait à peu près un tous les 3 jours. Et donc c'est beaucoup porté sur tout ce qui est artistique, il y a beaucoup d'artistes de musique, d'éditeurs de jeux vidéo, que ce soit dans tout ce qui est... Tous les arts en fait se retrouvent à Montréal, c'est une ville super artistique et c'est très très agréable.
Bon, alors pour la petite histoire, c'est parce qu'on a un ami commun, on a découvert qu'on avait un ami commun, ils ont travaillé ensemble et donc voilà, c'était un peu la private joke, mais bon, voilà, On arrive au bout de cette émission, merci de l'avoir écouté. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur weddingpodcast.fr, mais aussi sur votre application de podcast préférée, que ce soit Apple Podcast, Castbox, Spotify, Deezer, TuneIn. Il y a aussi un groupe Facebook qui est important, où je pose des questions par rapport à l'émission. Si vous avez envie de poser des questions aux futurs invités, ça peut être intéressant d'interagir tout ça. Et je vais remercier Laurent qui quand même est venu, alors il n'est pas venu que pour ça, mais il est quand même venu du Canada pour enregistrer ce podcast. Donc merci Laurent.
Merci à toi Sébastien, merci d'avoir invité.
Et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission.